L'intégration de la Suisse à l'Union européenne se fait-elle à marche forcée?
Ça bataille ce matin sur Radio Lac autour de cette question. J'ai pris le terme le plus suisse possible pour parler donc de la place que doit avoir, selon vous, la Suisse au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, Jean-Claude Juncker, président de l'Union européenne, est à Berne. Vraisemblablement, la Suisse va donner 1 milliard de cohésion, c'est comme ça que l'on dit. Pour en parler avec nous et avec vous, Celina G, membre du Think Tank for House, et Adrien de Riedmatten, coordinateur en Suisse romande de l'ASIN, l'action pour une Suisse indépendante et neutre. Et à chaque fois que nous entendons ce que l'on appelle en radio l'intro de ce tapis, c'est-à-dire lorsque la voix dit l'intégration se fait à la marche forcée, ça vous fait bondir. Ça fait 3 fois qu'on l'entend, 3 fois que vous bondissez.
Absolument, parce que...
Allez-y.
Absolument, parce qu'il n'y a pas d'intégration en question pour l'instant, même si c'est le souhait de l'Union européenne. Alors la question, c'est quelle est la place de la Suisse dans l'Union européenne? Moi, je pense qu'il faut la poser à l'envers, c'est quelle est la place de l'Union européenne en Suisse? Il faut bien comprendre l'influence que l'Union européenne essaie d'exercer sur la Suisse, et puis sa signification, parce qu'on sait bien que l'Union européenne n'est pas en soi une entité tout à fait libre. C'est une lointaine succursale de l'atlantisme. Je veux dire, c'est un reste pratiquement de Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, on sait bien qu'ils sont dans la droite ligne de ce que demandent les États-Unis. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est que le peuple a voté pour une reprise en main de son immigration. Ça a été posé, c'était clair. Et puis le Parlement, sous influence pour pas irriter l'Union européenne, a dit non.
Mais au-delà de la question de l'immigration, question toute simple, ensemble, on n'est pas plus fort. Sans dire Suisse et Union européenne, vous dites c'est un vieux reliquat de Seconde Guerre mondiale.
Oui, mais ensemble, librement. Pas ensemble fondu, pas ensemble disparu, si vous voulez, dans une masse qui nous est tout à fait étrangère. Nous avons une tradition démocratique qui gêne l'Union européenne. Donc ils ont décidé, si vous voulez, ils ont décidé de mettre des moyens pour nous casser les reins. C'est très clairement ce qui s'est passé au Parlement le 16 décembre de 2016. Les gens ont dit, on va pas fâcher l'Union européenne, parce que sinon, oh mon Dieu, ils vont nous supprimer la recherche. Et puis, ils nous ont dégagés. Et je trouve d'ailleurs assez symptomatique que j'ai en face de moi donc un représentant de Four House, qui est très clairement une agence. Je veux dire, Foras, il faut quand même voir le financement. Quand on voit les rapports qui sont d'ailleurs déclarés sur le site internet avec l'ambassade des États-Unis, avec la fondation Jean Monnet pour l'Europe.
Non. La réponse avec de l'agent Tchénidadji.
Non, je ne suis pas un agent des États-Unis ou de la fondation Jean Monnet. On a un financement qui est tout à fait transparent. On a des activités parfois avec ces entités que vous mentionnez, mais on n'est certainement pas financé par eux. Je ne sais pas où vous avez trouvé ces informations. Soutien, je suis prêt à en discuter.
Non, mais le soutien institutionnel avec des officines d'État, avec le cercle de la grande société de Berne.
Mais bon, alors écoutez, on va pas faire maintenant.
Excusez-moi, ce que je trouve assez symptomatique. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que nous avons eu en Valais, pendant les élections, Johann Rochel qui a mené deux campagnes, les fameuses campagnes de la société civile par la RTS, deux campagnes contre M. Freisinger.
Elle l'a fait à titre personnel, pas en nom de
personnel, en signant ses ces emails de la boîte.
On va revenir sur l'Europe.
Ouais, on va pas remettre l'église au milieu du village, ni le minaret au milieu du Valais, mais vraiment sur la question de la place de la Suisse au sein de l'Union européenne.
Par rapport à cette initiative du 9 février, oui. On entend bien, vous dites, le peuple n'a pas été entendu. Tchénidadji, clairement, nous avons voté pour une réduction de l'immigration. Ce ne sera pas vraiment le cas. Est-ce que l'on s'est fait flouer sur cette votation?
Je suis partiellement d'accord avec le fait que cette initiative n'a pas été mise en place comme le texte le prévoyait. Maintenant, le Parlement est une instance démocratique. Ils ont pris cette décision-là. Elle pouvait être attaquée d'ailleurs par référendum, par voie de la démocratie directe. La loi d'application pouvait être attaquée. Ça n'a pas été fait, donc elle est rentrée en vigueur de manière démocratique. Il n'y a pas de scandale à ça. Si cette loi correspondait pas à ce que l'UDC voulait, il fallait que l'UDC l'attaque par voie de référendum. Ils ont décidé de ne pas le faire. On est toujours dans une démocratie. Vous pouvez lancer des référendums, des initiatives. D'ailleurs, ils l'ont fait. Moi, je trouve absolument pas qu'on est dans une intégration à marche forcée. À chaque étape, le peuple a pu donner son avis et il a été respecté. Et quand ça n'a pas été fait comme pour l'initiative contre l'immigration de masse, il y avait toujours la possibilité d'avoir le référendum facultatif pour corriger le tir du Parlement. Or, personne n'a voulu lancer de référendum.
Je trouve extrêmement surprenant que ce soit donc un représentant de Four House qui confie, si vous voulez, la sauvegarde du mécanisme démocratique à l'UDC.
La question, c'est Suisse-Europe. Forcément, c'est une question qui est très vite politique, mais on peut essayer de dépolitiser cette conversation.
Alors, d'une certaine manière, oui, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas, si vous voulez, sur un terrain neutre. Nous sommes, très clairement, nous sommes très clairement dans un terrain conflictuel. Nous avons ces influences. Pharaos en représente une. Le financement remonte jusqu'à l'Open Society de M. Soros. Donc nous vivons en Suisse ce que certains pays, notamment arabes récemment...
Peut-être vous êtes financé par M. Blocher aussi. Je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans ce jeu.
Figurez-vous que M. Blocher ne finance pas l'asile.
Ah bon ?
Nous avons 40 000 membres et que nous sommes financés par les cotisations de nos adhérents.
Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite comparaison avec un pays qui nous est extrêmement similaire de par la taille, de par le fonctionnement de son économie. C'est le Luxembourg qui est membre de l'Union européenne. Et nous avons interrogé Roger Hartmann, il est suisse, il est conseiller stratégique de la société luxembourgeoise Fuchs Associés et Finances. Et on lui a demandé, à lui, qui connaît bien les deux pays, quel est l'avantage pour le Luxembourg, qui est donc un petit pays par superficie, par nombre d'habitants, dont l'essentiel de l'économie est financière. Donc quel est l'avantage pour ce pays d'être membre de l'Union européenne? On écoute sa réponse.
Un petit pays comme le Luxembourg, dans l'Union européenne, bénéficie d'une chance énorme d'avoir finalement un poids politique et financier que l'Union européenne lui donne, qu'elle n'aurait absolument pas si elle n'était pas dans l'Union européenne. Je crois que le Luxembourg a beaucoup grandi, harmonieusement grandi, dans l'espace européen et dans la zone euro en particulier. Et les bienfaits de cette appartenance au Luxembourg sont manifestes. La principauté du Liechtenstein, son adhésion à l'espace économique européen, encore une fois, le contexte est différent de la Suisse, l'a fait progresser de manière considérable.
Donc on le voit, pour un pays similaire à la Suisse, qui est, je pense, tout aussi démocratique que le nôtre, ça s'est bien passé. Juste une petite réaction là-dessus, Adrien Drobaton, même s'il n'est évidemment pas question pour la Suisse d'adhérer, mais que l'on voit que, typiquement, pour un pays comme ça, ça a été tout de même bénéfique.
Alors, la comparaison est, excusez-moi, mais tout à fait nulle. Parce que si vous
l'enregistrez hier, c'est gentil.
Non, je suis désolé d'être aussi direct, mais je veux dire, l'histoire, si vous voulez, la profondeur culturelle et l'histoire démocratique du Luxembourg, c'est pas du tout la même. Ça date de quand, le Luxembourg? L'indépendance du Luxembourg, c'est le XXe siècle. Hein. Il faut quand même le savoir. C'est quand Béatrix arrive au trône de Hollande. À ce moment-là, le grand-duché de Luxembourg ne reconnaît pas la transmission aux femmes et décide de faire sécession. C'est pour ça qu'ils ont le même drapeau avec l'Hollande.
N'empêche qu'aujourd'hui, il y a une réalité.
C'est un grand-duché, c'est pas une démocratie directe. Donc, ils n'ont pas 700 ans d'histoire, ils n'ont pas cette tradition démocratique, ils n'ont pas cette tradition de défense libre. Donc, qu'est-ce que c'est que le Luxembourg? C'est un petit État qui a été balayé pendant la Seconde Guerre mondiale en même pas deux heures. Qui ne doit son indépendance qu'à la collaboration avec des plus grandes puissances. Ce qui n'a jamais été le cas de la Suisse. La Suisse a toujours dû son indépendance au fait de mettre des claques aux grandes puissances.
Le but, c'est pas de dire il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Le but, c'est de dire voilà comment ça fonctionne au Luxembourg. Non, qui n'a pas la même histoire.
Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le Luxembourg était taillé pour être, si vous voulez, une espèce de petit centre neutre. Vous voyez, je veux dire, quand vous allez à New York, vous allez dans le quartier de l'ONU, bah, c'est une espèce de petites zones comme ça, indépendantes, extraterritoriales. Et c'est ce qu'est en train de devenir, si vous voulez, Luxembourg. Donc oui, effectivement, ils rentrent de l'argent parce qu'ils ont des bureaux, parce qu'ils ont un rôle de ce point de vue-là. Mais il faut savoir, c'est pas en tant que nation libre et indépendante, c'est très clairement en tant que, justement, petit noyau, comme Bruxelles risque de devenir d'ailleurs dans la Belgique, petit noyau comme ça, qui a suffisamment d'identité pour n'être ni allemande, ni belge, ni française.
Alex nous dit clairement, l'Europe a besoin de la Suisse a besoin de l'Europe, c'est un partenariat. Si chacun y gagne avec le versement d'un milliard, tant mieux pour tout le monde. Voilà en partie le message d'Alex. Le mot de la fin peut-être pour Tchani Nadji, on vous a moins entendu.
Écoutez, je pense que, en effet, la comparaison avec le Luxembourg n'est pas forcément très pertinente parce que c'est un pays d'un demi-million d'habitants alors que nous avons 8,5 millions d'habitants. On aurait pu comparer avec l'Autriche qui a à peu près le même nombre d'habitants que la Suisse, qui est aussi un ancien pays. Ces petits pays ou ces pays, disons, de taille moyenne peuvent exister sur la scène internationale grâce à l'Union européenne. Je trouve que c'est ça qui est intéressant et c'est peut-être ça qui sortait justement dans l'interview que vous avez retranscrit. Quand on est en dehors de l'Union européenne, on n'a pas voix au chapitre sur certaines décisions, sur certaines normes internationales qui de toute façon finiront par s'appliquer à nous, qu'on le veuille ou non, par exemple en matière bancaire, et Dieu sait que c'est important pour la place financière suisse. Et donc le Luxembourg a prouvé, l'Autriche aussi, et d'autres pays comme l'Irlande, qu'en étant dans l'Union européenne, ils ont plus pu façonner ces normes à leur propre intérêt qu'en étant en dehors, la Suisse n'ayant absolument pas voix au chapitre sur ces législations extrêmement importantes, encore une fois, pour notre économie.
Juste vous faire écouter ce que nous disait encore donc cet intervenant Roger Hartmann, qui est donc conseiller stratégique de la société luxembourgeoise Fuchs Associés Finances, qui explique que les banques suisses ont bien compris que le Luxembourg avait un intérêt.
Je ne citerai pas forcément le Crédit Suisse parce qu'ils sont là depuis très longtemps, mais prenons par exemple Julius Baer, qui était absent à Luxembourg, il n'y était pas. Aujourd'hui, ils sont en train de créer la banque européenne, hein, la Julius Baer Europe, sera basée à partir du 1er janvier à Luxembourg, de manière à avoir un accès facilité sur l'ensemble des marchés européens qu'elle désire travailler. Il vient à Luxembourg parce que c'est une place qui a une vraie culture de cross-border, qui est relativement similaire à la Suisse, cette culture internationale. Le luxembourgeois parle en moyenne 4 langues. Et on a peut-être également une certaine manière de travailler, le secret professionnel qui est très fortement ancré comme en Suisse. Il y a beaucoup de similarités entre la Suisse et le Luxembourg.
Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que nos banques suisses s'installent au Luxembourg. Pour avoir accès au marché européen auquel elles ne peuvent pas avoir accès depuis la Suisse.
Ça fait juste 60 ans qu'elles y sont pour permettre aux clients suisses d'évader leur argent, donc il ne faut pas non plus prendre pour débit.
C'est de l'optimisation.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de Chirac qui avait réagi à je sais plus ce que qu'un conseiller fédéral lui avait dit à propos des fromages, en disant que la France n'avait absolument aucune leçon à recevoir en matière de fromage, mais la Suisse n'a absolument aucune leçon à recevoir en matière de banque. C'est pas Luxembourg qui va nous apprendre à faire de la banque.
Oui, mais il y a des délocalisations. Aujourd'hui, il y a des gens qui partent de la place financière genevoise, zurichoise, pour s'installer au Luxembourg. Julius Baer est un exemple. Et moi, je suis assez préoccupé par la situation de la place financière suisse. Les banques suisses trouvent des solutions pour accéder au marché, ils se rendent justement au Luxembourg, et c'est pas à cause de l'expérience cross-border, c'est parce que le Luxembourg a accès au marché intérieur de l'Union Européenne sur les questions financières. Et la Suisse essaie de conclure un accord bilatéral sur cette question-là, d'ailleurs, chose que la Commission européenne se refuse de faire tant que, justement, nous n'avons pas conclu d'accord institutionnel. Voilà un très bon exemple de ce que la Suisse a à gagner d'avoir des accords bilatéraux.
Eh bien, nous resterons donc là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé vos opinions avec aussi les auditeurs et auditrices de Radio Lac. Thierry Nadji, vous êtes membre du think tank For House. Adrien de Riedmatten, vous êtes coordinateur en Suisse romande de l'Asile, l'action pour une Suisse indépendante et neutre. Merci beaucoup d'avoir été, messieurs, sur Radio Lac ce matin. 8h49, oui, nous sommes en retard, mais quand la conversation est aussi passionnante et passionnée, regardons ce qui se passe en bref dans l'actualité.